Martin Provost, bonjour.
Bonjour.
Vous avez manqué tout ça, vous, mais vous réécouterez ça sur le web, vous allez voir Parents jusqu'au bout. C'est à la fois frustrant et assez édifiant de voir le combat de ces mères-là. Vous êtes directeur adjoint des études au Cégep du Vieux-Montréal. Vous êtes responsable du service d'aide à l'intégration des étudiants et du Centre collégial de soutien à l'intégration pour l'Ouest du Québec depuis déjà 14 ans, donc vous connaissez quand même... 14 mois.
14 mois. Ouais. Parce que dans mon autre vie professionnelle, on s'est rencontrés pour autre chose en entrevue aussi.
Vous connaissez quand même le tabac. On voulait savoir comment se fait-il que le Cégep du Vieux-Montréal est aussi bien outillé pour accepter et bien desservir l'étudiant avec des limitations?
Bien, en fait, c'est parce que ça a été un des premiers établissements à s'y intéresser. Il y a déjà longtemps, puis c'est le premier établissement qui a eu un mandat officiel dans ce sens-là de la part du ministère à l'époque, c'est tout simplement le ministère de l'Éducation. Là. Alors depuis 1982, qu'il y a un mandat particulier qui est confié au Cégep du Montréal. Puis au début, c'était seulement pour les étudiants qui avaient des limitations d'ordre sensoriel ou motrice. Et puis par la suite, ben ça s'est élargi. Mais avant même de s'élargir vraiment, il y a eu un mandat aussi de soutien pour les autres collèges. Donc depuis 1989, le Cégep du Vieux-Montréal offre non seulement des services à ses étudiants en situation de handicap, mais du soutien aux autres collèges pour leurs propres services adaptés.
De quel ordre? Comment on peut soutenir à distance?
Ben en fait, ben c'est à distance et pas toujours. On organise aussi des activités de formation et d'échange avec les autres collèges. Mais en fait, c'est beaucoup de soutien au concernant. Ben au départ, c'était beaucoup pour l'organisation des services. Donc, par exemple, si je veux offrir des services adaptés à mes étudiants en situation de handicap, qu'est-ce que ça me prend comme professionnel, comme technicien? Quel type d'organisation je dois offrir? Comment je dois structurer mon service? Est-ce que je donne des rendez-vous à des moments fixes? Comment j'organise mes trucs? Est-ce que je fais du groupe ou seulement de l'individuel? Fait qu'il y a eu, premièrement, tous ces éléments-là qui étaient comment organiser son service. Ensuite de ça, il y a toute la question de la connaissance liée aux différentes conditions des étudiants. Donc, de récolter l'information qui est à jour, qui est pertinente sur le vécu, les besoins, les capacités puis les limites des gens qui ont une cécité totale, une schizophrénie doublée d'épilepsie, quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment du transfert de connaissances au niveau des difficultés qui sont vécues par les étudiants et bien sûr au niveau des stratégies d'apprentissage, au niveau des technologies qui peuvent aider les gens. Au début, on était plus dans l'accessibilité physique. Après ça, on a commencé à donner des services d'interprétation visuelle et tout ça. Donc, il y a du transfert de connaissances qui se fait par rapport à ça. Puis au quotidien, je vous dirais, ce qui sollicite le plus d'énergie au CCSI de la part des différents collèges, c'est vraiment les situations particulières. Parce que les collèges commencent à avoir pas mal de connaissances sur les situations plus standards, si on veut, plus fréquentes. Mais quand c'est beaucoup les cas de figure qui nous arrivent. Puis au fond, malgré que ça fasse plusieurs décennies déjà qu'on offre des services, il se présente toujours des situations nouvelles.
Au niveau des budgets, j'imagine que ce sont deux enveloppes, une pour le centre et une pour les étudiants du Vieux-Montréal?
Effectivement. Tout ça, par contre, si on regarde ça du plan global au niveau ministériel, c'est un budget qui est spécifique, qui est accordé au collège, puis il y en a un qui est accordé au CCSI, okay. Mais c'est dans la même annexe de financement. Mais c'est effectivement des sommes qui sont dédiées à ces programmes-là.
Si je regarde les chiffres, on parle de 525 étudiants avec des limitations sur un corps étudiant d'environ 9000. Est-ce que c'est représentatif de, disons, l'ensemble des cégeps ou parce que vous êtes mieux outillés, vous avez peut-être un plus grand bassin d'étudiants du genre?
On n'a pas une... Okay. C'est difficile à démontrer. C'est ça. On sait qu'il y a des étudiants qui disent qu'ils viennent chez nous parce qu'ils ont des besoins particuliers puis qu'ils savent qu'on est bien équipés.
Ouais.
Puis c'est sûr, quand on dit d'ailleurs 525 sur 9000, bon, on a 6000 étudiants au régulier, 3000 à la formation continue et services aux entreprises. Les 525, c'est ceux qui sont inscrits à notre service. On s'entend qu'il y a il y a un plus grand nombre d'étudiants en situation de handicap dans le collège, mais il y en a qui n'ont pas besoin de notre aide pour réussir. Mais oui, effectivement, on l'entend encore, il y a une réputation, comme au Cégep du Montréal, on a une réputation pour la qualité de nos programmes ou la variété, ben on a une réputation aussi pour les services adaptés. Mais c'est sûr qu'il y a de bons services adaptés dans plein de collèges.
Les défis particuliers, je présume, c'est au niveau des troubles d'apprentissage. C'est là que ça explose?
Ben, en fait, ce n'est pas nécessairement des défis plus particuliers. C'est-à-dire que c'est le portrait de la population qu'on dessert maintenant. Donc, les gens qui ont des troubles d'apprentissage, c'est la plus grande proportion des étudiants inscrits dans les services adaptés à peu près dans l'ensemble des collèges. Et bon, oui, ça a augmenté beaucoup. Il faut savoir qu'il y a des raisons pour lesquelles, bon, au début, il n'y en avait pas de toute façon. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'en avait pas. Il y en avait qui étaient présents dans le collège, mais ce n'était pas dans nos missions et on n'avait pas de financement pour les desservir. Alors ça a changé avec les années. Et maintenant, en plus, ben, ces étudiants-là qui ont des troubles d'apprentissage sont mieux reconnus au primaire et au secondaire. Ils sont identifiés. Ils ont du soutien. Fait qu'ils réussissent davantage à se rendre aux études postsecondaires. Donc, ils se retrouvent plus présents dans nos collèges.
Laurence, quand vous entendez les étudiants contacter les bureaux de la CAPES, quel semble être le plus grand défi, le plus grand manque à gagner, et que pourrait faire peut-être un cégep, si on se concentre sur le collégial, pour améliorer ce problème-là?
Je dirais que le plus gros manque, en fait, c'est souvent, surtout au cégep, l'étudiant, comme M. Prévost le disait, il y a 525 élèves inscrits dans les services, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a juste 525 dans le cégep. Il y en a qui n'en ont pas besoin, mais il y en a aussi qui ne vont pas déclarer leur situation de handicap par peur d'être rejetés, etc. Un problème qu'on rencontre, c'est des fois de convaincre l'étudiant que oui, aller voir ces services-là peut vraiment, vraiment l'aider, pas lui nuire. Pas le mettre dans une position marginale. Au contraire, ça peut vraiment l'aider à poursuivre ses études de façon de bonne façon.
Donc, il vous appelle au bureau en tant qu'étudiant avec une incapacité postsecondaire, mais il aimerait avoir des services, disons, presque en sourdine, là, un peu incognito?
Y en a qui appellent parce qu'ils ont des problèmes avec leur professeur, et là, en posant des questions, on se rend compte qu'ils n'ont pas de conseiller aux services adaptés. Donc, ils ne sont pas allés voir les services adaptés, alors que ça devrait être la première étape, d'après moi, c'est d'aller voir les services adaptés. Parce que comme ça, le professeur va se trouver dans une position où il n'a pas le choix de donner l'accommodement.
Bien sûr. Martin Prévost, c'est malheureusement tout le temps qu'on a, mais merci d'avoir été là.
Ça m'a fait plaisir.